Alors, aujourd'hui, je dirais que, en introduction, il y a un intérêt tout à fait particulier dans le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 apparaît souvent au travers de la Bible. Dans le livre de la Genèse, on voit que la création a été faite en 7 jours. Il y a 7 grandes fêtes en Israël. Le livre de l'Apocalypse nous parle des 7 églises. Et je voudrais ce matin vous donner 7 clés concernant le mystère et la puissance de votre pensée. La première des clés, c'est votre attitude est un choix. C'est votre choix. Chaque matin, vous avez le choix de vous lever et d'avoir une attitude positive ou d'avoir une attitude négative. Le roi David nous dit au psaume 118, verset 4, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Cette attitude de joie est une bonne attitude que nous devons avoir chaque matin. Un jour, il m'a été donné d'apporter une montre à réparer et quelque temps après, j'ai rencontré cet horloger qui avait réparé ma montre et puis il me dit « Mais comment va votre montre ?» J'étais surpris par cette question et puis je me suis mis à regarder ma montre et j'ai dit « Très bien, elle fonctionne très bien. » Et puis par la suite, il m'a regardé dans les yeux et il m'a posé cette question « Et vous ?» Effectivement, lorsque j'ai regardé à ma montre, elle marchait d'une manière régulière tous les jours. Tous les jours, elle m'a donné l'heure et la bonne heure. Tous les jours, elle a fonctionné sans interruption. Lorsque j'avais besoin d'elle, elle était là. Mais quand j'ai regardé à moi, je me suis dit, effectivement, hier, je me suis levé du mauvais pied et puis je n'étais pas très content. Et il s'est passé ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il manquait de régularité dans ma vie. Et bien sûr, j'ai pensé, c'est la faute aux autres. C'est la faute à Dieu. Mais lorsque j'ai entendu le psaume que nous donne David, je me suis rendu compte que c'était un choix et que ce choix est personnel. Je peux, chaque matin, me lever de bonne humeur et la parole de Dieu m'invite à louer, à célébrer, à me réjouir chaque matin de cette nouvelle journée. C'est une grâce. La vie nous a été donnée par le Seigneur et c'est une grâce qui nous est donnée de pouvoir le louer et dire « Merci Seigneur pour cette journée, c'est une journée qui est merveilleuse, c'est une journée où je vais être rempli de ta joie parce que je vais voir les bénédictions fuser dans cette journée. » Bien souvent, vous savez, on a tendance à agir d'une autre façon. C'est en cela. La meilleure des choses qui te garantissent un plein succès dans ta vie et d'oublier le passé. L'apôtre Paul nous donne un grand secret. Et ce secret devient important à partir du moment où dans notre esprit nous l'acceptons et où nous le mettons en pratique. Dans le livre des Philippiens, au chapitre 3, verset 13, il nous est dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est vrai que c'est un mystère. Oubliant son passé, oubliant toujours ce qui ne va pas, oubliant quelque part tous les problèmes que j'ai accumulés dans ma vie, oubliant eh bien, tout ce qui fait finalement mon quotidien et qui m'empêche de vivre. Et là, il y a une clé extraordinaire que nous voyons lorsque Paul nous dit, et je suis persuadé qu'il avait un esprit qui était chargé. Rappelez-vous, Paul a contribué à ce que des chrétiens soient assassinés. Étienne en est un exemple. Et il a combattu tout ce monde. Mais à un moment donné, lorsque Dieu l'a touché, lorsque la grâce de Dieu s'est révélée à lui, alors à ce moment-là, on voit eh bien, Paul qui dit cette parole extraordinaire à l'église de Philippe, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'essaie d'oublier tout ce que j'ai vécu pour ne pas être prisonnier de mon passé et aller de l'avant. Parce que ce qui est important, c'est de savoir ce que je dois faire. Ce qui est important, c'est de me porter vers l'avenir. Vous ne pouvez rien faire vous avez aimé une personne dans votre vie et qu'elle est décédée. Vous ne pourrez pas changer le passé. Vous ne pouvez rien faire si vous vous êtes séparés et qu'un beau jour, eh bien, dans votre vie, il y a eu un divorce et ça a totalement changé votre existence. Vous ne pourrez pas revenir ou vivre sans arrêt au travers de ce divorce. Vous ne pouvez rien faire si un jour, eh bien, vos enfants ont décidé de partir, de quitter la maison ou de prendre pour époux quelqu'un qui peut-être n'a pas votre assentiment. Vous ne pouvez rien faire. Mais ce que vous pouvez faire, ce n'est pas vivre avec le passé, parce que le passé est passé, mais c'est de regarder, de se tourner vers l'avenir. Et l'avenir est rempli eh bien, de promesses merveilleuses. Nous avons souvent tendance à penser que notre futur est conditionné par notre passé. Quelque part, nous avons le sentiment que nous sommes prisonniers de notre passé et que ce futur est hypothéqué par rapport à ce que nous avons vécu. Je crois que cela est une fausse idée. Je vous donne un exemple formidable et qui vous montre à quel point le monde a saisi ces choses-là. Si nous regardons les symphonies d'un homme célèbre de Beethoven, l'une des plus belles symphonies qu'il ait composées et écrites, eh bien, c'était lorsqu'il était aveugle. Et nous savons que le Seigneur agit et transforme. Lui, il a pris toutes nos infirmités afin que nous puissions nous tourner vers l'avant, vers l'avenir. Je vous donne un exemple aussi, c'est celui de David. On connaît David, on sait que c'est un jeune homme qui a combattu le géant Goliath. On sait aussi, et on se rappelle qu'il a été un héros, mais qu'il a fait des choses, et on se souvient qu'il a commis l'adultère, et même qu'il a contribué à la mort eh bien, de l'époux de cette femme. Et pourtant, lorsqu'on consulte les Écritures, on s'aperçoit d'une chose, et c'est dans le livre des Actes, et bien après cela, Dieu dira de David, « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur et qui est prêt à accomplir ma volonté. » Dieu ne regarde pas à notre passé pour déterminer notre avenir. Ce qui est passé, et David qui a de la crainte de Dieu, David qui a le respect et l'amour de Dieu, a conscience à des moments de ses fautes, de ses transgressions, et il ira voir le prophète lui demandant pardon eh bien, de toutes ses erreurs. Et nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure, et un Dieu eh bien, qui ne tient pas compte de nos fautes du passé pour nous donner un avenir de succès, un avenir de bénédiction, un avenir de joie. Et ne pensez pas que votre passé eh bien, vous tient prisonnier dans votre futur. Dieu a un avenir pour vous. On voit aussi Et nous avons cet exemple formidable de... Et vous vous rappelez que Moïse envoie deux hommes pour prospecter la terre de Canaan. Un jeune homme qui s'appelle Josué, il avait à peine 18 ans, et Caleb. Et puis il envoie aussi 10 autres personnes. Et ces personnes, eh bien, lorsqu'elles vont prospecter cette terre, elles reviendront en disant « Oui, nous avons vu dans cette terre, dans ce pays, couler le lait et le miel, et nous en avons vu les fruits. » Mais ils diront aussi plus tard, eh bien, que nous ne pouvons pas nous emparer de ce pays parce que certainement, eh bien, nous allons nous faire battre. Ils ont regardé avec leurs yeux humains et ils ne se sont pas appuyés sur les promesses de Dieu. Hein, ces promesses qui étaient que Dieu voulait donner à son peuple cette terre de Canaan. Ils ont regardé à leur incapacité, ils ont regardé à tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire, au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien parce que Dieu nous a donné une parole extraordinaire et cela, c'était dans leur tête. Et bien souvent, nous réagissons de la même manière parce que cela se passe dans notre tête. Nous proclamons, eh bien, la parole de défaite, nous proclamons les difficultés, mais nous ne proclamons pas la parole de victoire et la parole de succès en nous appuyant sur les Saintes Écritures. C'est à cela que Dieu nous appelle, et je vous invite véritablement à relire vos Bibles, à vous en emparer, afin que la Bible, que cette parole, eh bien, soit une parole vivante, une lettre vivante pour chacun de vous, et que vous puissiez la mettre en pratique. C'est à cela que le Seigneur nous invite. C'est à ces choses-là. Rappelez-vous aussi d'un élément important, et je crois que c'est une tâche à laquelle le Seigneur nous invite à chacun, c'est reconnaître. Reconnaître Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Reconnaître que Jésus a mis le doigt sur toi et il t'a touché afin que tu sois son enfant. Tu es le choix de Dieu. Tu es un roi, tu es une reine. Reconnaître. Dieu est un Dieu qui aime que nous puissions le reconnaître. Dieu est un Dieu qui aime et qui souhaite qu'au lieu, bien souvent, de nous plaindre, de gémir, eh bien, nous puissions être des adorateurs en esprit, en vérité, des hommes et des femmes qui le recherchons de tout notre cœur et qui le remercions pour tout ce qu'il fait. Car n'oubliez pas que c'est une grâce jour après jour si nous vivons. Le jour que nous vivons ne nous appartient pas. Et le souffle qui nous anime, eh bien, nous ne pouvons pas en déterminer la durée de temps. Donc, tout est grâce. Et nous devons être conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre appel est de remercier en tout temps, favorable ou non, et de nous appuyer sur sa parole. Dieu veut des hommes et des femmes reconnaissants. Des hommes et des femmes qui l'aiment, qui puissent s'appuyer sur lui. Je vous rappelle ce psaume que nous déclarons sans cesse le dimanche, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » C'est à cela que chacun de nous, eh bien, nous sommes appelés et c'est un choix qui vous est personnel. La deuxième attitude que nous devons avoir, c'est une attitude qui va être, je dirais, déterminante par rapport à ce que nous voulons faire, notre engagement. L'apôtre Paul dit dans le livre des Philippiens, au chapitre 4 et verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Hein ? C'est une attitude qui permet d'accomplir de grandes choses. C'est une attitude qui me permet d'être motivé, de ne pas regarder toujours à mes incapacités. Cette attitude, eh bien, n'est le reflet finalement que de nos propres paroles. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Oui. La détermination que j'ai dans le choix de mon attitude dépend de mes propres paroles, des paroles qui sortent de ma bouche. Le livre des Proverbes nous dit, au chapitre 18 et verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La détermination, le choix qui va m'amener à réussir, à triompher, le choix de demeurer toujours enthousiaste va dépendre, eh bien, des paroles qui vont sortir de ma bouche. Si j'ai des paroles d'encouragement, je serai encouragé. Si j'ai des paroles négatives, je serai découragé. Je serai en perte de vitesse. Et quelque part, c'est comme ça que le malin prend le dessus sur moi. Si nous regardons à la vie de Thomas, nous voyons bien que Thomas était un disciple, il a vécu avec Jésus, il a reçu les enseignements de Jésus pendant plus de 3 ans et demi, et puis il a vu Jésus marcher sur la mer de Galilée, il a eu peur avec les autres disciples quand la tempête est venue, et il a vu aussi, eh bien, lorsque Jésus a dit à la tempête de s'arrêter, et le vent s'est arrêté, et le calme est revenu, et pourtant, on voit ce même disciple qui a assisté à la résurrection de Lazare lorsque Jésus dira devant le tombeau, Lazare sort. On voit ce disciple, lorsque les autres disciples lui annoncent que Jésus est ressuscité, avoir le doute et il dira, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Le doute, le manque de foi. Jésus dira à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui n'a pas cru, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. Le troisième point, c'est votre attitude détermine votre bonne santé émotionnelle. En fait, bien souvent, nous savons que notre état émotionnel fluctue avec nos sentiments, avec nos émotions, etc. Mais notre attitude doit être égale à elle-même. C'est un choix. Vous savez qu'on est les spécialistes, c'est pour ça qu'on a de très bons cinéastes. On est des spécialistes à se faire des films. On se fait des films en couleur. On a tendance, au travers d'un simple fait, d'une situation, on a tendance à retranscrire des scénarios. Et puis finalement, on aime bien prendre l'attitude du coupable, ou on aime bien prendre l'attitude de celui qui est le malheureux, la malheureuse, qui lui arrive tous les problèmes de la terre. Je dirais qu'on a tendance à s'emprisonner dans une position, dans une attitude qui, au lieu de nous amener à être, des vainqueurs, au lieu de nous amener à être forts, a tendance à nous faire baisser les bras. Et pour cela, c'est une attitude, et cette attitude, nous avons le pouvoir de résister au diable et il fuira loin de vous. Votre attitude permet de triompher des adversités. L'attitude qui nous permet de triompher des adversités se manifeste par le développement de notre caractère, d'être plus fort dans notre pensée. Si vous prenez l'histoire d'Israël, à un moment donné, vous verrez qu'il y avait Jérémie, et Jérémie allait souvent dans la maison du potier, qui se situe vers Hébron, Et il allait voir, eh bien, cette maison, on le voit, Jérémie, chapitre 18, verset 3, « Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. » C'est un endroit où chacun de nous, nous devons nous y rendre. La maison du potier, c'est l'Église. C'est un endroit où nous devons nous y rendre pour façonner notre caractère, pour être brisés, pour ramollir eh bien, nos cœurs, afin que nos cœurs deviennent des cœurs de chair. Quelquefois, pour repasser à la refonte, hein, vous avez vu, dans cet atelier du potier, quand la terre est trop dure, eh bien, le potier, il prend l'argile, et il la remet dans l'eau et il la retravaille à nouveau afin d'en faire un autre vase. Et c'est là l'attitude d'un chrétien, eh bien, de venir sans cesse dans cette maison, dans cette habitation, afin de travailler son caractère, afin de pouvoir travailler ses attitudes, afin d'être transformé et de devenir un vase d'honneur. C'est à cela que nous sommes appelés, afin de pouvoir prendre des munitions, des forces qui vont nous permettre non pas de déclamer la force de Dieu, mais de déclamer notre propre force au travers de la parole de Dieu. Ce qui est complètement différent. Parce que nous mettons sa parole eh bien, en expérimentation. Le livre des Philippiens, au chapitre 2, verset 14, nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». On voit bien que ce qui nous empêche bien souvent de triompher des difficultés, c'est que on a un caractère, et ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque c'est marqué dans les Saintes Écritures, on aime bien murmurer, on aime bien hésiter, on n'est jamais content, on n'est jamais content de s'en sortir, on est toujours en train de rouspéter, et pendant ce temps, eh bien, on perd les batailles. Dieu ne nous a pas appelés à être un peuple indocile, à être un peuple, il nous a appelés à être un peuple obéissant. Il nous a appelés à être un peuple qui est content d'être enfant de Dieu. Il nous a appelés à ce que nous soyons heureux de la condition qu'il nous a accordée, je vous le rappelle, par faveur et par grâce. Et nos murmures, nos hésitations, nos critiques n'ont de cesse que de nous éloigner de la parole de Dieu et de la qualité d'être un enfant de Dieu. Rappelez-vous cette histoire qui nous a été donnée dans l'Ancien Testament où le peuple était en train de murmurer et Dieu, à un moment donné, eh bien, est en colère et il leur envoie des serpents venimeux qui sont en train de les tuer. C'est bien souvent ce que beaucoup de chrétiens vivent dans les églises. Ils ne viennent pas pour se restaurer, ils ne viennent pas pour adorer, ils ne viennent pas pour aimer Dieu, ils viennent pour se faire mordre par des serpents venimeux parce qu'ils sont focalisés non pas eh bien, sur Jésus-Christ, mais ils sont focalisés dans leur esprit, par leurs pensées, par les murmures et par la critique. Dieu est un Dieu qui rejette ces choses-là. Nous sommes un peuple, et Dieu dira, je cherche un peuple d'adorateurs, en esprit et en vérité. Alléluia. Votre attitude détermine l'attitude d'autres personnes. Et je dirais que nous avons un pouvoir extraordinaire. Ton attitude peut eh bien, déterminer l'attitude d'autres chrétiens. Et cela, nous le voyons dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est là la loi des prophètes. » On est souvent là à vouloir recevoir, mais et souvent lorsque j'entends des personnes, eh bien ils sont là à dire oui tu comprends, on m'a vexé, on m'a trahi, on m'a fait ci, et puis ils vont parler d'eux, mais lorsque je regarde à la situation, je m'aperçois que cette même attitude ils l'ont eue avec les autres. Et finalement, dans leur tête, ils ne se sont pas mis à la place des autres. Ils n'ont regardé que leur cas de figure. Ils n'ont pas regardé ce que l'autre pensait. Et le Seigneur nous invite, eh bien, à agir et à faire, eh bien, ce qu'on nous fait, nous devons savoir le faire aux autres et avoir cette délicatesse de pouvoir. Cela, c'est une attitude très importante. Une attitude, lorsque Dieu nous invite, et c'est une clé extraordinaire, celle de la gratitude. Celle de pouvoir remercier. C'est une clé qui va nous donner de pouvoir entrer dans le domaine surnaturel de Dieu. C'est là où le miracle de Dieu s'opère. Beaucoup de gens me disent « Je ne vois pas le miracle arriver dans ma vie ». Beaucoup de gens vivent des vies de chrétiens misérables parce qu'ils n'ont pas une qualité de vie qui leur permet eh bien, d'être heureux déjà, de rendre grâce de ce qu'ils sont, d'avoir de la joie. On vient à l'église parce qu'on est souvent malade, parce qu'on a un problème, mais on ne vient pas à l'église parce qu'on est heureux de venir à l'église. Pourtant, c'est là la fête de Dieu, parce que lorsque nous sommes en présence de Dieu, c'est là la plus belle des invitations que le Seigneur nous accorde. Notre attitude peut être contagieuse. Si nous sommes démoralisés, découragés, eh bien nous allons décourager les autres. Nous voyons dans le livre des Romains, au chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, Dieu nous invite à être des plus que vainqueurs, à être des hommes et des femmes qui ne regardons pas toujours aux problèmes, mais qui sommes là pour nous remonter, pour nous donner du courage, pour nous donner eh bien, de savoir qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. C'est cette attitude-là qui va faire que nous ayons de la joie de vivre. C'est cette attitude-là qui va nous donner d'être des enthousiastes. Moi, quand je vois quelqu'un qui a 20 ans dans l'église et qui est déconfit et qui est triste et qui finalement, on a l'impression qu'il vit les malheurs de Sophie, eh bien, je me dis, moi qui viens à l'église, dans 20 ans, je vais être pire. Hein? C'est pas cela et à cela que le Seigneur nous invite. Le dernier des points est et c'est une attitude qui doit me permettre, eh bien, malgré les difficultés, d'être stable dans ma vie chrétienne. La stabilité. On est trop instable, on va à tout vent de doctrine, on se laisse manipuler, on n'a pas de logique, on regarde à soi, on regarde plus à l'œuvre de Dieu, on cherche plus à plaire à Dieu, on cherche à plaire aux hommes. Nous avons une attitude et cette attitude, bien souvent, eh bien, nous amène à ne pas accomplir l'œuvre de Dieu. Nous voyons dans le livre des Philippiens, au chapitre 4, verset 8, l'apôtre qui dira « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. »